Le Seigneur soit avec vous
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le Temple, sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. » Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de ma main, ni de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il y a eu le chapitre 6 de saint Jean, dans la synagogue de Capharnaüm, le discours sur le pain de vie, où Jésus fait scandale en disant « La chair, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde ». Ici, il y a un autre scandale qui attirera encore plus la mort sur Jésus lui-même, c'est la dernière phrase. Le Père et moi, nous sommes un. Le grec original dit même, moi et le Père, nous sommes un. En Israël, un prophète, un homme qui dit moi et le Père, Dieu le Père, nous sommes un, veut dire, je suis Dieu comme le Père. Puisque le grand credo d'Israël, c'est Adonai Echad. Dieu est un. Il n'y a pas de division en lui. Donc quelqu'un qui dit « lui et moi, nous sommes un », ça veut dire que je suis Dieu avec lui et il est Dieu avec moi. Il n'y a pas besoin de développement doctrinal, dogmatique, de concile, d'hérésie, pour qu'on capte tout de suite ce que cela veut dire et que l'on accuse de blasphème celui qui parle ainsi. Eh bien, cette conclusion de l'évangile que nous avons, elle va de pair avec tout ce qui la précède, c'est-à-dire que Jésus donne la vie éternelle à ceux qui croient en lui, celles et ceux qui croient en lui, et personne ne les arrachera de sa main. Autrement dit, l'unité divine de Jésus avec le Père, elle est là en lui, Jésus, pour donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui, c'est-à-dire la vie même de Dieu. Eh bien, lorsque Jésus parle ainsi, Il répond à la question de ceux qui lui disent « Dis-nous oui ou non si tu es le Christ ». Jésus le dira ouvertement dans la nuit de sa condamnation, lorsqu'il n'y aura plus d'ambiguïté possible sur sa messianité, qui sera résolument transcendante, immergée dans l'histoire et spirituelle, mais pas immédiatement politique, même si à terme elle pourra avoir une portée sur la vie politique des régimes des différents États. Eh bien, lorsqu'il n'y aura plus d'ambiguïté sur cette messianité du Christ et qu'il pourra librement dire dans la nuit « Oui, je suis le Christ et vous verrez le Fils de l'homme siéger à droite de la puissance et venir sur les nuées du ciel » en citant le prophète Daniel, Là, le Christ Jésus n'aura plus d'hésitation à dévoiler sa messianité parce qu'il sera au seuil de la mort. Et que c'est justement au ciel de la mort, par la résurrection qui suit, que cette messianité va pouvoir se développer dans sa vraie dimension. En attendant, lorsque il est avant la Passion, durant l'évangile de Jean, en confrontation avec Ceux que Jean appelle les Juifs, c'est-à-dire non pas tous les Juifs, mais ceux des Juifs qui, chefs religieux, revendiquent pour eux la véritable identité juive, alors que les autres le sont tout autant qu'eux, lorsqu'il est en confrontation avec ces chefs religieux qui concentrent sur eux, d'après leurs prétentions, la plénitude de l'identité juive, Jésus leur dit « Je vous ai dit que je suis le Christ et vous ne me croyez pas ». Au moins les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Et ces œuvres, quelles sont-elles? Ce sont des œuvres de vie. Ce sont des œuvres de vie éternelle qui sont recevables par ceux qui croient en lui. Autrement dit, nous revenons tout le temps à ce que nous disions il y a déjà plusieurs semaines, c'est que la messianité de Jésus, la preuve qu'il est le Verbe éternel fait chair, c'est l'expérience qu'en ont les apôtres. Et c'est cette expérience-là qui est indépassable et aussi indéchiffrable, il faut bien le reconnaître, et qui, à travers et même au-delà des miracles du Christ, les multiplications des pains, les guérisons, même le relèvement de Lazare, cette expérience est véritablement le critère par lequel ceux et celles qui croient en lui vérifient qu'il est bien le Christ et même le Fils de Dieu. Autrement dit, la preuve que Jésus est le Christ, qui est demandé cette preuve par ses adversaires, elle n'est accessible et recevable que lorsque l'on croit en lui. Et en dehors de cette foi par laquelle on croit en lui, les signes qu'il donne de sa messianité et même de sa divinité par ses paroles apparemment excessives, « Moi et le Père, nous sommes un », les signes qu'il donne de sa messianité et de sa divinité ne sont pas absolus et ne peuvent pas s'imposer au détriment des libertés humaines qui croiraient ou ne croiraient pas en lui. Car quelqu'un qui prétend n'être qu'un avec Dieu peut passer pour un imposteur et un blasphémateur, et quelqu'un qui multiplie les pains et fait des miracles peut passer pour un des prophètes tels qu'il y a eu beaucoup, qui n'ont jamais prétendu ni être le Messie, ni être le Fils de Dieu. Donc comprenons que la profondeur et la vérité de la messianité de Jésus et de sa divinité ne sont véritablement perceptibles que lorsque l'on est déjà dans la foi. Et que lorsque l'on n'est pas encore dans la foi et que l'on réclame des signes, eh bien il faut pouvoir avoir un cœur au moment où il demande, qui accepte de cheminer dans la réponse qu'il accorde à ces signes. Et si ce cœur est d'emblée fermé, il n'entrera pas dans ces signes ne lui parleront pas, et il ne pourra pas progresser vers l'intelligence de la pleine messianité et de la vraie divinité de Jésus. Voilà ce qu'il en est de la grâce de Dieu et de la liberté humaine. Dieu ne s'impose pas de manière à forcer nos libertés à croire en lui. Dieu se propose à travers des signes dont l'éloquence est d'autant plus efficace que nous nous ouvrons à la profondeur de ces signes pour y recevoir la vérité de l'incarnation en Jésus. Voilà comment, dans sa bonté, Dieu respecte nos libertés lorsqu'il se révèle à nous. Non pas dans des tonnerres et des éclairs qui peuvent toujours être réductibles à des phénomènes météorologiques comme au Sinaï ou géologiques, mais dans la parole des prophètes et dans la croix et la passion de son Fils. Alors demandons au Seigneur que notre progression vers lui soit une progression qui se fasse dans sa grâce et en toute liberté en ce qui nous concerne, et demandons cette grâce aussi pour les hommes et les femmes de notre temps, pour que les témoignages que par nous le Seigneur veut bien donner au monde soient dans le monde reçus en pleine liberté et dans une véritable adhésion du cœur. C'est cela que le Seigneur veut. Et s'il fait des miracles splendides et qui s'imposent, eh bien, ce ne sera jamais sur la durée au détriment d'une libre adhésion d'amour à sa miséricorde qui passe et qui sauve. Que ce soit notre prière à notre bon berger ce matin, et même si cet évangile se passe en hiver, eh bien qu'il puisse réchauffer notre cœur en venant nous redire combien l'amour que le Seigneur a pour nous est un amour qui doit être pleinement consenti et librement approfondi par chacun de nous, que nous soyons au tout début et que nous ayons encore besoin de signes éclatants, ou que nous soyons plus avancés et qu'ayant moins besoin de ces signes, nous puissions de toute façon, en goûtant la profondeur de son mystère, goûter combien le Seigneur est bon. Amen.